Enfin, c'est pas vraiment une question, mais ça confirme un petit peu ce que vous dites en ce qui concerne donc cette logique du cumul des inégalités. Effectivement, donc moi, dans une étude sur l'usage des plateformes pédagogiques par les lycéens, et tout à l'heure, donc dans le séminaire précédent, j'évoquais le terme donc d'impact, quels sont les effets du numérique, bien sûr, donc, quand on parle du numérique, on généralise, mais donc, ça dépend de l'outil utilisé, mais ça dépend aussi, comme vous venez de dire, de l'usage de ce qu'on fait donc, de cet outil, donc l'usage de cet outil, en tout cas. Alors, c'est le poids des plateformes pédagogiques sur les résultats scolaires ou sur les acquisitions scolaires des élèves. Et en fait, quand on regarde un petit peu les recherches, souvent donc on généralise, mais quand on va un peu plus loin, on essaie donc de gratter, de voir donc les différences, en fait on trouve que ceux qui sont donc les meilleurs élèves, les élèves en tout cas jugés donc bons, profitent davantage donc de ce numérique que les élèves qui se trouvent en difficulté. Certes, ils en profitent, mais leur proportion est moindre. Et on se retrouve donc justement dans ce que vous venez de dire, dans cette logique du cumul. Ceux donc qui ont déjà donc un capital scolaire, une culture donc qui est proche de celle qui est dispensée par l'école, se trouvent encore davantage donc se trouvent donc favorisés puisqu'ils maîtrisent davantage donc cet outil donc numérique. Et on retrouve donc le débat lancé donc par Pierre Bourdieu dans les années 60 de ce fameux donc débat sur la reproduction. Voilà, donc c'était juste pour confirmer un petit peu. Donc, et en fait, donc on se retrouve donc dans un rapprochement des résultats, que ce soit donc en Italie ou en France.
En plus, je suis totalement d'accord. En plus, il y a un problème. Il y a une sociologue anglaise qui s'appelle, connue, je pense, qui s'appelle Diane Ray. Elle travaille à Cambridge. Elle a fait des études sur ce qu'elle appelle le capital institutionnel. Elle entend par ça, en fait, l'effet que les élèves, selon la scolarité que tu as faite, tu n'as pas seulement un capital familial, culturel, mais aussi un capital de scolarisation. C'est-à-dire qu'il y a un habitus scolaire correct. En fait, les problèmes des étudiants qu'on a observés dans les classes professionnelles, c'était des gens qui, dans les langages en Italie, ne sont pas scolarisés. Je ne sais pas si on utilise ce mot en France. Scolarisé, ça veut dire, c'est comme Goffman, c'est comme dire institutionnalisé. Non? Ça veut dire quelqu'un qui a incorporé l'école, être scolarisé, qui a des comportements qui sont corrects par rapport à l'école. Et ces gens-là sont des.
Qui se
comment?
Scolaire.
Aux exigences des
scolaire.
Voilà.
Scolarisé, ça veut dire être allé à l'école, et scolaire, c'est avoir intégré
Voilà.
les compétences.
Alors, c'est scolaire, c'est que la traduction, c'est scolaire. Et en fait, c'est institutionnalisé en Goffman, c'est-à-dire qu'il a incorporé l'institution. Tu es un étudiant, tu sais d'être un étudiant, tu as incorporé la domination scolaire, l'autorité des professeurs, etc. Mais il y a des élèves qui ne sont pas scolaires et qui ne veulent pas accepter en fait la démarche scolaire et qui trouvent la démarche scolaire une violence, même s'ils n'ont pas les concepts pour la définir. Comme une violence symbolique, matérielle, corporelle, etc. Mais quand même, ils réagissent à cette violence, qui est une violence qui essaie de construire une conformité cognitive, une conformité comportementale dans des élèves qui ont des conceptions, par exemple, de la virilité, non? Qui ne sont pas les mêmes des classes scolaires où les institutrices sont d'ailleurs des femmes bourgeoises. Bon, pas bourgeoises, mais des classes moyennes. Et donc, les enfants, je parle par exemple des enfants des bergers de la campagne sarde, qui ont une idée de la virilité plutôt virile, je veux dire plutôt quoi? Traditionnelle, une idée héroïque, un peu héroïque, de l'honneur, sont encore dans cette culture de l'honneur, etc. Et donc, qui considère l'école, mais c'est aussi ce qu'on disait en Angleterre, à Liverpool, sur MacLeod, etc., Willis, etc., sur les étudiants de classe ouvrière, ils avaient une éthique de la classe ouvrière qui refusait l'éthique scolaire. Non? Et donc, non, ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a cet effet de domination par lequel l'école ne peut pas arriver à communiquer avec ses étudiants. Donc il y a un effet de domination culturelle sous des enfants qui ne peuvent pas accepter l'effet que l'école soit la normalité. Alors pour nous, c'est normal l'école. Parce que nous, on est des enfants de l'école. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'enfants d'école. Leurs parents n'étaient pas d'enfants d'école, même étaient refusés par l'école. Ils ont une tradition familiale de refus, d'échec scolaire. Et donc, ils se considèrent même des adversaires de l'école. Ils attendent de l'école l'échec. Hein. Et donc, en fait, il y a un conflit. C'est un conflit des classes, pour vous. Hein. Le problème, c'est que nous, les enseignants, on n'arrive pas à on ne les conceptualise pas en tant que conflit des classes. On les considère un problème de socialisation, d'éducation, de moralité. Bon, je suis en train de passer à un autre sujet. Mais il est là, le sujet.
Et moi, je voulais peut-être prolonger plus ce que disait ma sœur. Alors d'abord, c'est vrai que, moi, je n'ai pas du tout travaillé sur le tableau blanc interactif, mais pour des observations spontanées que j'ai faites dans ma commune ou dans les écoles de mes enfants. Alors, je ne sais pas si c'est pareil en Italie, mais en France, l'école primaire, par exemple, toute la gestion du matériel, des locaux, etc., tout le financement est fait par les mairies. Et ensuite, pour les collèges, c'est les départements, pour les lycées, oui, c'est la région, etc. Et on voit partout, enfin, il nous semble à toutes les échelles, que justement, les dispositifs numériques, comme les tableaux blancs, comme les tablettes, comme les ordinateurs, c'est souvent impulsé par les mairies, par les régions, par les départements qui, d'un coup, alors ça leur coûte cher, mais en même temps, sur le plan symbolique, ça fait rayonner quand même pas mal. Une fois qu'on a dit, voilà, j'ai équipé toutes mes écoles de tableaux blancs numériques, de tablettes, etc. Voilà. Et ensuite, à aucun moment, la question se pose de savoir est-ce que les enseignants qui étaient dans les établissements étaient motivés pour s'en servir. Est-ce qu'il va y avoir une formation, voilà, pour les accompagner? En général, non. Et comme en plus, la formation des enseignants, la formation continue en France, elle est prise en charge par l'institution scolaire et non pas par les communes, par les départements, etc. Il n'y a aucune correspondance entre les deux. Et en général, on voit des établissements parfois qui sont super bien équipés. Et ils s'en fait rien, ou alors, enfin, moi je vois dans l'école de mes enfants, par exemple, les tableaux blancs interactifs, ils servent en fait comme un vidéoprojecteur, c'est-à-dire on va projeter Internet, on va projeter un film, mais absolument pas, ou alors vraiment épisodiquement, utiliser un logiciel qui permettrait de faire des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Bon, ça, du coup, c'était une remarque. Et sinon, par rapport à la question des inégalités, de ce creusement, de cette accentuation des inégalités par l'usage du numérique, je me demandais si ce n'était pas aussi lié au fait que ces outils sont considérés en fait comme des objets transparents. Ils arrivent là et sans qu'il y ait une perception de toute la formation pour les élèves que ça nécessiterait pour arriver à s'en servir ou pour en connaître tous les usages au-delà de ceux dont ils sont familiers. Du coup, il n'y a pas un apprentissage spécifique qui est pensé sur ces outils, ce qui fait que ceux qui savent déjà les utiliser dans la famille, etc., continuent à savoir les utiliser, et ceux qui sont soit dans des usages très techniques ou très réduits ou qui ne les utilisent pas, n'ont pas accès, par exemple, dans ce que tu disais ou ce que tu disais sur le fait que dans les lycées généraux, par exemple, ils font des activités de recherche collective, etc., parce que c'est des compétences qu'ils ont déjà, donc on les réutilise sur un outil qui est différent, mais en fin de compte, ça change pas l'outil, le support change, mais les compétences qui sont derrière, alors je n'ose plus utiliser le terme compétences, mais c'est difficile d'en trouver un autre qui puisse le remplacer. Et souvent, en tout cas, bon, sur le lycée, je ne sais pas, mais à l'école primaire, il n'y a pas tellement d'apprentissage de l'outil en lui-même. On l'utilise parce que c'est considéré comme transparent. Aller chercher des informations sur Internet, ben, voilà, on va chercher des informations, mais on ne forme pas les élèves à se dire comment on fait pour aller chercher une information, comment on trie les informations qu'on trouve sur Internet.
Ah, ça, c'est le problème central. Ça, c'est le problème central en général. C'est-à-dire, en fait... Alors d'abord, la première question que tu as posée, c'était que les institutions publiques ont l'intérêt à faire cet investissement. Ils ont cet intérêt parce qu'il y a de l'argent. Et il y a de l'argent public, souvent de l'Union européenne, L'argent européen, c'est de l'argent de la France ou de l'Italie qui arrive à l'Union européenne et retourne en France et en Italie, mais ça retourne dans un cadre cadré. Non? Et donc, en fait, une administration efficace, c'est une administration qui fait des projets pour dépenser cet argent. Donc, les administrations sont obligées à construire des projets pour dépenser des argent, l'argent qui est mis sur l'innovation technologique dans l'éducation. Donc, s'ils ne font pas ça, ils vont gaspiller un argent public qui peut être dépensé dans l'économie locale, par exemple.
Mais en France, en tout cas pour le premier degré, il y a même, enfin moi je connais beaucoup de communes qui ont équipé leurs écoles sans qu'il y ait de financement.
Donc avec leur choix. Ah oui, mais il y a ça.
Pour le côté symbolique de.
L'autre élément, qu'il y a une croyance. Il y a une double croyance. Au moins en Italie. D'abord, la première croyance, c'est que l'usage et l'outil fait la révolution. Le deuxième élément. En général, au moins en Italie, ils considèrent les anciens comme des idiots. Donc, ils considèrent les enseignants comme des gens qui n'ont pas les niveaux aujourd'hui pour enseigner dans la société d'aujourd'hui. Donc, il faut les convertir, il faut les éduquer, il faut les réformer. Mais ça, c'est la communauté européenne aussi. Il y a tout un discours sur le training des enseignants. L'OCSE aussi, l'UNESCO aussi, et à tout un discours sur la formation continuelle et continue des enseignants. Et donc, dans ces projets-là, il y avait au moins peut-être 18 millions d'euros qui étaient dépensés en Sardaigne sur la formation des enseignants. Et donc, l'idée, c'était justement faire une convention sur les croyances, sur la pédagogie de la classe inversée, sur l'usage des outils comme les téléphones dans la classe, tous ces instruments qui sont... Après, quand tu vois, moi j'ai assisté à ces genres de formations et des fois c'est très décevant parce que des fois c'est les enseignants qui sont considérés les plus performants par rapport à l'innovation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à montrer aux autres enseignants des sites et des plateformes dans lesquelles ils peuvent décharger des programmes ou passer des activités en classe, etc., qui sont des activités d'intégration, mais qui finalement, oui, peuvent être utiles. Moi aussi, je les utilise à l'université. Par exemple, j'ai fait les cours de sociologie et quand je termine, je pose, il y a un système qui s'appelle Mentimeter. Donc, chaque étudiant a son code, et donc je fais voter aux étudiants si les professeurs étaient clairs, s'ils ont des questions à poser, et je pose des questions, donc je vois dans l'anonymat s'ils ont compris un certain concept, ou si j'étais mauvais ces jours-là, etc. Et donc, ils peuvent, dans l'anonymat, réagir par rapport. Et donc, ça, c'est intéressant parce que quand je demande dans la classe, est-ce que tu as compris? Tout le monde me dit oui, j'ai compris. En fait, ils n'ont pas compris. Mais là, tu vois qu'en fait, les 30% n'ont pas compris. Donc, et ça, tu peux réagir par rapport à ça et savoir qu'en fait, même s'ils disent oui, c'est non. Non? Et donc, ça, c'est, pour moi, c'est important dans l'usage de la technologie. Mais en fait, autour de ça, qui en fait, c'est un outil qui peut aider, on crée un discours qui en fait est révolutionnaire sur quelque chose qui n'est pas une révolution finalement. Si, ça peut changer des pratiques, mais ce n'est pas une révolution. Même les anciens espèrent, mais je les trouve décevants par exemple.
Justement, je suis ignorante sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des travaux qui évaluent l'impact éventuel, cognitif, psychologique, que sais-je, de l'usage de ce genre de dispositif dans les classes à tous les niveaux?
Dans la psychologie, oui, surtout, et dans les sciences cognitives, oui. Oui, en sociologie, on n'a pas cet objectif, au moins, pas moi, de mesurer. En fait, non, moi je ne connais pas
des sociologues. On fait comme si ça creusait les inégalités, on espère que ça les réduise, mais finalement, est-ce que ça a un impact?
Ça peut, alors, c'est, selon certaines, moi j'ai lu de la littérature pédagogique, et ça c'est de l'éducation, des psychologues, et apparemment, aujourd'hui, ça commence à dire justement qu'en fait, peut avoir aussi un impact négatif. D'accord? Qu'en fait, il faut construire, selon certains aujourd'hui, un escaffaudage de connaissances pour pouvoir avoir des compétences. Donc, en fait, on ne peut pas faire une recherche sur n'importe quel sujet si tu ne connais un peu le sujet. Donc, en fait, l'idée de mettre des outils dans les mains, justement, tu disais, comment faire une recherche dans l'Internet. Dans l'Internet, tu as n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, tu as des résultats des fois comiques quand tu fais faire les recherches aux étudiants sur les choses. Hein? Parce qu'ils font des patchwork entre les choses, etc. Et même ça peut être négatif. Ça peut être négatif parce qu'ils n'ont pas les compétences pour chercher, pour trouver. Et donc, ils perdent du temps. Et aussi parce qu'ils copient. Et ils trouvent des choses qu'ils n'ont pas une attitude critique par rapport à ce qu'ils déchargent. Et donc, ça aussi, il y a un problème parce que l'autorité passe de l'enseignant à l'Internet.
C'est un effet de l'œuvre, en fait.
Oui, exactement.
Après, il y a plein d'études sur l'impact des écrans. Hein, ça,
oui, mais il y a par contre, tu as
des études sur le général.
Oui, mais bon, comme Elisabeth nous disait maintenant en place, des études générales sur les écrans qui sont jusqu'à ça.
Ah, mais on passe sur les écrans, tu
peux. Jusqu'à un certain âge.
Non, mais ce sera intéressant de savoir si ça sert finalement, quel genre de ressources ou bien d'encombrement c'est pour l'apprentissage,
oui,
ça c'est le moment de le savoir maintenant.
Ouais, mais en fait, je pense
que ça vient. Oui, il y a des petits machins qui sont passés, c'est certain. Mais comme c'est tôt sur
l'effet,
en général,
dans le niveau
de matière que ça, je ne sais pas.
On attend des thèses.
Non, moi, mon avis, ça vient de ce que je disais auparavant, je pense que c'est cette difficulté donc à mesurer donc cet effet, donc, parce que effectivement donc il y en a des travaux qui montrent qu'il y a des effets positifs, que effectivement donc les outils ou les technologies numériques donc améliorent les résultats scolaires des élèves, améliorent donc leurs acquisitions, donc comme je disais précédemment, il y en a d'autres qui montrent le contraire. Par exemple donc les enquêtes de PISA, des enquêtes internationales, montrent en fait qu'il y a une corrélation donc, entre l'usage donc, du numérique et les résultats scolaires des élèves, mais par contre, il n'y a pas de corrélation, par contre, il n'y a pas d'impact, et même, ils disent que l'impact il est négatif quand on utilise beaucoup donc, le numérique, quand on passe beaucoup plus de temps devant donc, l'ordinateur, en tout cas, les outils numériques. Et ça montre donc cette difficulté à mesurer exactement les effets.
Mesurer un temps passé devant l'ordinateur, ça ne veut rien dire si tu ne sais pas quelle tâche tu fais sur l'ordinateur.
Oui, oui.
Alors, par rapport à ça, moi, j'ai travaillé avec un collègue statisticien sur OxyPISA, justement sur ces données-là, justement pour discuter cet article-là du capital digital. Ouais. Et, donc, c'est un article qui est presque terminé. Et en fait, ce qu'on a vu en Italie, c'est que l'effet sur les résultats scolaires existe, mais secondaire. Parce qu'en fait, il y a la sélection auparavant par les capitales culturelles, par les choix de l'école, qui fait la différence. Donc, finalement, comment les étudiants, les capitales culturelles des étudiants des lycées.
Ils font faire une chose tout à fait égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'après, pour voir qui c'est utile, et puis les autres variables,
voilà.
Utiliser les autres variables, parce que sinon tu ne sais pas.
Non, il n'y a pas de.
Mais même après, si tu, par exemple, tu fais une étude sur, je sais pas, l'usage des tablettes en classe, encore faut-il savoir quel est l'usage qui est fait dans telle classe. Parce
que, et oui, c'est ça.
Je veux dire, tu évalues pas le dispositif, tu évalues qu'est-ce qui est fait, et du coup, qu'est-ce qui peut en être retenu. Effectivement, à mon avis, c'est plutôt des travaux qualitatifs qui pourraient éclairer que du quantitatif. Enfin, je sais pas.
Non, merci.
Bon, merci beaucoup. Yeah.